Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Parlons droit, ici à la radio Envol 91 FM. L'émission Parlons droit vous vient de la part du Centre Infojustice Manitoba, qui est un centre d'information juridique pour les francophones. Tous nos services sont gratuits et confidentiels, notre mission étant d'améliorer l'accès à la justice dans la langue française au Manitoba. Aujourd'hui, nous vous présentons notre première émission de l'année 2022. Alors, on vous souhaite d'abord une très bonne année et nous commençons l'année en force avec un invité de marque qui est déjà paru à l'émission Parlons droit il y a quelque temps. Là, où on avait parlé de son parcours en droit, de ses expériences en droit criminel, en particulier du fait d'offrir des services variés en français de son propre cabinet privé, le cabinet Téphen Labossière-Richer. Je parle bien sûr de Maître Philippe Richer. Bonjour, Maître.
Bonjour, Tariq.
Alors, ça fait un bout de temps, je pense que c'était avant la pandémie. On avait justement parlé du parcours du cabinet Téphen Labossière-Richer, qu'on appelle l'étude d'avocat TLR parfois. Alors, mais on a vu quand même qu'il y a eu des nouveautés. Alors, on aimerait savoir si on peut avoir une petite mise à jour d'abord sur le cabinet TLR.
Oui, merci, Tariq. Oui, alors, évidemment, le nom de Téphen Labossière-Richer, c'était le nom initial que nous avions. Je me suis joint à Réal Téphen et Denis Labossière, qui se sont depuis retirés. Nous avons changé le nom du cabinet à TLR pour garder la tradition, mais en même temps pour annoncer que... il y a des changements, puis il y a une nouvelle direction qui se passe. Alors, on essaie de faire la transition avec TLR. Alors, le nom maintenant, c'est Études d'avocat TLR Law Office, tout un titre. On a une enseigne maintenant à l'entrée de Saint-Boniface sur la Provencher, où il y a la bibliothèque. Nos bureaux à Saint-Boniface sont situés au deuxième étage. Alors, nous étions à l'époque qu'on s'est rencontrés, c'est difficile de se rappeler quelle était la vie avant la pandémie. On se rencontrait en personne, on s'est rencontrés au studio même. Depuis à ce moment-là, nous étions au 247 Provencher, en face du parc Provencher, près de Louriel. Alors, nous sommes maintenant sur le coin de Taché Provencher, au deuxième étage de l'édifice Momentum, où se situe la bibliothèque de Saint-Boniface. Nous avons depuis acquis une pratique dans le sud de la ville, sur la Pamana, que nous avons ensuite déménagé sur Scurfield à partir du 1er janvier cette année. Un de nos avocats travaille de ce lieu. Il est anglophone, mais il parle français aussi, Daryl Strain, qui était d'ailleurs un violoniste avec la symphonie avant de se lancer en droit. Alors, un parcours très intéressant.
Wow!
Nous avons aussi acquis la pratique de Caroline Kramer, qui se trouve sur le coin de Sargent et Wall, qui s'appelle Estate Attorneys of Manitoba. Alors, c'est une marque différente. Nous allons probablement déménager cette pratique parce que je suis présentement... à ce bureau, nos auditeurs ne le verront pas, mais moi, je porte présentement mon manteau parce que c'est un édifice qui date de probablement 50 ans avec un système de chauffage de 50 ans. Le bail se termine au mois de juin et on cherche un nouveau local pour cette pratique-ci. Et puis, nous sommes présentement aussi en discussion avec deux autres avocats pour probablement reprendre leur pratique. Alors, ça va être une autre année de croissance cette année, 2022.
Wow! Ça, c'est clair qu'on élargit les services. C'est toujours, on voit par ce nouveau titre, on peut l'appeler, le nom du cabinet, que c'est sûrement un cabinet bilingue. Alors, est-ce qu'on peut comprendre quand même que tous ces acquisitions, ces nouveaux services, c'est tout possible d'avoir des services, que ce soit en succession ou de quoi que ce soit en français, toujours du cabinet TLR?
Oui, alors je vais donner la courte réponse. La courte réponse, c'est oui, on offre toujours les services en français. La plus longue réponse est que, comme vous le savez, la main-d'œuvre, premièrement, ces jours-ci, elle est difficile à trouver. Si on réduit nos employés potentiels à des employés bilingues, ça vient de plus en plus, c'est encore plus difficile. Alors, nous avons la capacité d'offrir des services en français, mais on a quelques employés qui ont des compétences spécifiques qui ne parlent pas le français, qui se situent à Saint-Boniface. Alors, on a une parajuriste. On a deux parajuristes, par exemple, seniors qui sont anglophones. Ils font la formation présentement pour des assistants légaux qui sont bilingues. Alors, nous avons la capacité de le faire, mais malheureusement, on ne peut pas, on n'œuvre pas entièrement en français au travail. Mais on fait notre possible pour, surtout à Saint-Boniface, d'avoir des gens qui sont bilingues là, mais on a quelques employés qui ne le sont pas. Et dans les autres bureaux, ce n'est pas une obligation de trouver des francophones. Si on peut trouver des francophones, évidemment, ou des gens qui parlent le français, c'est une préférence. D'ailleurs, Daryl, par exemple, qui se trouve sur la Schofield, sa conjointe est du Québec. Elle aussi est musicienne avec la symphonie. Ils y sont installés au Manitoba. Alors, on est très heureux d'avoir Daryl avec nous. Puis, on a une équipe, notre équipe junior, la majorité parle le français.
C'est excellent. Ouais, ça, je pense que ça match la réalité en même temps, d'avoir plusieurs locales, plusieurs avocats qui travaillent. Il faut que, évidemment, la demande en français ne va pas être la même que du côté anglophone. Alors, il faut que raisonnable quand même, mais je pense qu'on peut bien voir que l'équipe dans l'ensemble serait bien en mesure de...
Oui, c'est quelqu'un, on le sait que c'est une obligation déontologique d'offrir le service dans la langue de choix du client. Si un client demande le service en français, nous avons la capacité, nous avons aussi la capacité d'assurer que toutes les communications entre clients et avocats, que ce soit verbal ou écrit, soient en français.
Ouais, c'est excellent. C'est pas quelque chose qu'on peut facilement retrouver n'importe où au Manitoba. Alors, c'est quand même pas mal exceptionnel. Je trouvais drôle que tu parles du chauffage en ce moment. Parce que justement, on allait parler de toutes les questions de l'achat, la vente de maison, parfois, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des vices, il peut y avoir des problèmes qui sont cachés. Il y en a qui peuvent être assez apparents et qui nous forcent à peut-être s'habiller. Alors, c'est ça. On voulait peut-être enchaîner pour parler justement de tout ces l'achat, la vente de la maison. Pour les francophones qui nous écoutent en ce moment, on a nos agents juristes avec nous, comme d'habitude, Jana Vandal et puis Kate Kabangu, qui vont poser certaines questions sur l'achat, la vente de la maison au Manitoba.
Oui, vous avez beaucoup d'expérience en droit immobilier, ça c'est Learning Service of votre cabinet. Donc, juste pour débuter, de manière très, très générale, je sais que c'est peut-être une grande question, mais selon vous, quelles sont les grosses erreurs que peuvent commettre un acheteur lors de ce processus d'acheter une maison?
La plus grosse erreur, alors c'est difficile de faire une erreur qui coûte cher, mais c'est possible de faire une erreur qui coûte cher. Alors, premièrement, je vais parler d'erreurs qui ne coûtent pas cher, mais qui causent beaucoup d'ennuis. C'est des acheteurs qui ne sont pas informés sur le processus. Souvent, on va avoir des gens qui vont acheter une maison et qu'ils pensent que le côté légal se fait magiquement. Et puis, à la dernière minute, ils courent d'un bord puis de l'autre pour les assurances, pour les argents, pour l'hypothèque, etc. Ils ne prennent pas le temps d'ouvrir leur calendrier ou de se rendre disponible pour signer les documents. Régulièrement, on a des clients qui partent en voyage juste avant l'acquisition de leur maison, quand ils n'ont pas encore signé les documents nécessaires pour transférer le titre. Donc il y a un élément d'éducation qui doit se faire au début. Il faut s'assurer qu'on est au courant des argents nécessaires parce qu'il y a toujours des coûts additionnels quand on achète une maison. Il y a les frais d'avocat, il y a la taxe sur le transfert de titre qui peut monter, tu sais, quand on a des maisons de 500 000 ou plus, la taxe sur le transfert de titre peut facilement monter dans les 4, 5, 6, 7 000 $. Alors, c'est quand même un montant assez important. Il y a les taxes foncières qui doivent être attribuées à la bonne partie parce que la ville de Winnipeg veut être payée par une personne seulement une fois par année. Alors, quand on prend possession d'une maison au milieu de l'année, bien, il faut rembourser quelqu'un pour les taxes que l'autre partie devra ou a payées. Donc, il y a ce côté-là. Il y a des ajustements qui se font à ce niveau-là. Et puis, il y a toute la question avec les banques, les hypothèques, etc. On doit s'assurer d'avoir tous nos documents en place, nos ententes en place, nos rencontres en place, avec assez de temps pour qu'on puisse faire notre travail avant la date de possession pour assurer une transition normale.
Mm-hmm. Excellent. Donc, c'est clair que ce n'est pas juste une procédure qui va se terminer dans une ou deux minutes après. Il faut du temps afin de se préparer puis de s'informer de la procédure, de que faire, etc.
Il y a des erreurs qui peuvent coûter très cher.
Ah oui.
Il y a un concept dans la common law qui se rend partout au Canada qui est majeur pour l'achat d'une maison, pour les acheteurs, c'est le concept de caveat emptor. C'est les acheteurs doivent accepter la maison comme elle est, avec les vices et les problèmes que la maison a. Et le vendeur n'est pas responsable pour ceci, à moins que le vendeur fasse quelque chose à moins que le vendeur fasse une promesse ou une représentation qui est fausse.
Mm-hmm.
Alors, c'est l'obligation de l'acheteur de s'assurer que la maison qu'il achète est en bonne et due forme. Alors, il y a une période de diligence appropriée qui est nécessaire que les acheteurs potentiels doivent faire. Alors, des choses qui... Maintenant, une maison, c'est pas comme le moteur d'une voiture. Aujourd'hui, les mécaniciens ne peuvent plus ouvrir, regarder un moteur sans avoir l'ordinateur qui leur dit qu'est-ce qui se passe. Une maison, c'est pas aussi compliqué que ça. Une maison, c'est des poteaux, puis c'est des murs avec des coins, puis il y a des systèmes de chauffage, il y a des systèmes d'électricité. Alors, c'est quand même assez facile de faire des inspections, même si l'individu ne peut pas le faire. On peut embaucher des gens qui spécialisent dans les inspections de maison ou on peut embaucher des gens dans les métiers de plombier, électricien, etc. pour faire des inspections. Parce qu'une fois que la date de possession arrive, une fois qu'on prend possession de la maison, que le titre transfère dans le nom de l'acheteur, le tout appartient maintenant à l'acheteur, incluant les problèmes. Même si personne n'est au courant des problèmes potentiels à ce moment-là, c'est un problème qui se manifeste au cours des années. Ils n'auront aucun recours envers les vendeurs, à moins que le vendeur leur ait fait ou donné une promesse ou une représentation que ce n'était pas un problème, qui est exceptionnellement rare d'ailleurs, parce que la majorité des transferts de titre de maison dans le résidentiel se font sur ce principe que c'est buyer, en anglais on dit buyer beware, le terme latin c'est caveat emptor. L'acheteur doit accepter ce qu'il reçoit.
Mm-hmm. Donc une façon de vous protéger comme un acheteur, ce serait essentiellement de faire cette inspection-là, puis d'assurer que le tout est correct avant qu'on prend possession de la maison.
Oui, absolument, absolument. Alors, il y a des conditions qu'on peut ajouter à l'offre d'achat. Si on fait affaire avec un agent immobilier, Il y a une forme prescrite par la loi que les agents immobiliers doivent utiliser pour les offres d'achat. Il y a d'ailleurs déjà imprimé sur cette forme une clause pour les inspections. On recommande aux gens de faire une inspection de quelque sorte, que ce soit par un inspecteur professionnel, que ce soit par des amis qui sont qui ou des connaissances que nous avons qui s'y connaissent en construction. Alors, il y a des choses qu'on peut faire pour éviter des gros problèmes.
Par rapport au titre foncier, c'est probablement un terme nouveau pour certains des écouteurs ou non, mais en gros, c'est quoi quand on parle de ce titre foncier-là, qu'est-ce que c'est, puis quelles sont les sortes d'informations qui sont contenues dans le titre?
Alors, les titres fonciers, j'imagine que la majorité de nos écouteurs ne se rappellent pas. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais les westerns à la télévision. Puis dans les westerns, t'avais les gens, les bandits qui arrivaient avec leurs fusils, puis ils rentraient dans la maison, puis ils disaient « Donnez-moi le titre de votre maison, sinon je vous abats avec vous puis votre famille. » Puis le titre, c'était un morceau de papier qui était caché en dessous du lit, puis en tout cas. Alors, je me rappelle de tout ça, c'était mon introduction au titre. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que tu veux dire, titre? Alors, le titre, ce n'est plus un document en papier, ce l'était pendant de longues périodes. Tout récemment, dans les, je pense, 10-15 dernières années, il y a une transition qui s'est faite. C'est maintenant des documents électroniques. Ces documents électroniques sont entreposés, gardés et gérés à l'Office des titres. Alors, nous avons plusieurs offices de titres au Manitoba, dont un à Winnipeg, qui est leur quartier général, si vous voulez, ou leur siège social. Le titre, le concept du titre, c'est un concept légal. Alors, quand on parle de droit, on parle de concepts abstraits. La loi n'existe pas comme une chose. Okay? Alors, on ne peut pas toucher à la loi. La loi, c'est des concepts, c'est des concepts abstraits, puis c'est des règlements pour gérer une population, essentiellement. Alors, c'est vraiment quelque chose de très humain. C'est quelque chose qui gère la relation entre les gens. Les contrats, c'est des ententes. Alors, le titre, c'est un document, c'est un concept légal qui représente le lien de propriété qui m'appartient à moi entre l'objet, qui est le terrain, puis la maison, avec les quatre coins du terrain, puis le stationnement, puis l'asphalte, puis le... Bon, alors tout ça... Comment je fais pour savoir, moi, que ça appartient à moi? C'est-tu parce que j'ai les clés que je peux ouvrir la porte? C'est-tu parce que je stationne ma voiture là? C'est-tu ça la base légale qui dit que moi, je suis le propriétaire de tout ça? Mon nom n'est pas écrit sur la maison. Tu sais, à la petite école, si c'était mon crayon ou mon chandail, on mettait notre nom à l'intérieur pour dire que ça m'appartient. Alors, c'est ce concept. L'étiquette, tu sais, quand on a l'étiquette, c'est l'étiquette qui dit que nous, on est le propriétaire. Alors, comment moi, je fais pour savoir que c'est ma maison, comment que les autres font pour savoir que ça m'appartient, qu'ils ne peuvent pas, eux autres, maintenant, rentrer puis prendre possession de la maison? C'est parce qu'il y a un titre, il y a un morceau de papier à l'époque, ce n'est plus un morceau de papier, c'était un morceau de papier qui avait mon nom dessus. Puis mon nom, puis juste sous mon nom, il y a une description légale. OK? La description légale correspond à un morceau de terrain au Manitoba. Les arpenteurs, c'est les gens qui sont qui déterminent quelle est la description légale d'un certain terrain, d'un certain morceau de terrain au Manitoba. Eux autres ont les moyens avec leurs instruments et leurs bébelles de sortir pour trouver. Si on leur donne une description légale, eux sont capables de sortir, de conduire, d'arriver dans les lieux, puis ils sont capables de mettre des pins dans les coins de chaque coin du terrain. Ils peuvent faire une représentation sur papier qui est un certificat de localisation au Manitoba qui va indiquer où se retrouve ce morceau de terrain-là. Alors, ça fait un lien, la description légale, c'est où se retrouve ce morceau de terrain. La description légale, c'est quelque chose de différent de l'adresse civique. L'adresse civique, ça, c'est comment on fait, nous, la majorité des gens, pour retrouver quelqu'un. Les seules personnes qui sont capables de retrouver un morceau de terrain avec la description légale, c'est un arpenteur. Parce que c'est quelque chose comme parcelle A, plan 138 dans la municipalité de XYZ. Alors, c'est pas comme ça qu'on se retrouve, nous, parce qu'on n'a pas les compétences d'un arpenteur, on utilise une adresse civique. Mais l'adresse civique ne vaut rien légalement. C'est juste une méthode pour trouver quelqu'un, pour se retrouver géographiquement dans un terrain. Alors, pour revenir au titre, ce qui se retrouve sur le titre, c'est le nom de la personne qui est propriétaire de la description légale qui se retrouve sur le titre foncier. Ensuite, les autres informations qu'on peut trouver sur le titre, c'est tous les gens ou toutes les organisations qui ont un intérêt sur le titre, qui ont enregistré cet intérêt. Alors, quand on obtient une hypothèque avec la banque, bien, la banque, eux, veulent s'assurer qu'ils vont se faire repayer leur hypothèque. Donc, comme sécurité, ils vont inscrire leur hypothèque sur le titre. Alors, puis ça, c'est des documents qui sont publics. Alors, c'est public, pas dans le sens qu'on peut aller à la bibliothèque avec notre carte de 5 piastres par année là, pour tout vérifier les livres. Il y a des frais à payer à l'Office des titres pour accéder. Il faut avoir le logiciel pour accéder. C'est pas super facile. Mais toutes les banques, les avocats peuvent accéder à ces documents-là. Et puis, les gens peuvent voir qui ont un intérêt sur ce titre. Les autres types d'intérêts qu'on peut trouver, surtout dans les régions ruraux, il y a souvent des propriétaires de terrain qui partagent un puits. Alors, il n'y a pas d'eau municipale, il y a un puits qui va desservir 2 ou 3 propriétés. Alors, souvent, il y a des ententes de puits entre les propriétaires. Alors, c'est des encombrements ou des ententes qu'on peut enregistrer sur le titre. Si on partage un stationnement ou un accès à une autoroute, par exemple, en deux terrains ruraux doivent partager le. Alors, ça, c'est des genres d'ententes qu'on va trouver sur un titre. Des duplex, il y a une entente entre le mur qui sépare les duplex. Alors, on retrouve ces genres d'ententes-là sur les titres.
Pour nous, je pense que ce serait très intéressant pour nos auditeurs à savoir, est-ce que c'est possible d'obtenir un titre foncier bilingue ou en français? Parce que je sais que c'est un document électronique avec toutes ces informations insérées là-dedans, mais est-ce que c'est possible d'obtenir un titre français ou même bilingue?
Oui, absolument. Oui.
Donc, vous avez mentionné aussi à plusieurs instances que, tu sais, comme il y a toute cette information sur le titre. Donc, si vous avez une hypothèque, s'il y a d'autres choses enregistrées en dessous de ce titre-là, donc, pourquoi serait-il important de faire une recherche sur ce titre foncier avant d'acheter une propriété? Puis, est-ce que, comme un individu comme moi, peut le faire sans avocat, sans l'aide d'un avocat?
Théoriquement, oui, un individu peut faire une recherche sur le titre. Je n'ai pas essayé comme individu parce que nous, on a un système au travail pour le faire. J'imagine qu'on peut appeler l'Office des titres puis il y a un moyen d'obtenir une image du titre. Alors, l'image du titre, c'est là où qu'on va retrouver, que ce soit en anglais ou en français, puis qu'il va avoir toutes les informations du titre. Oui, il faut faire une recherche sur le titre. D'ailleurs, c'est le travail de l'avocat de faire ça. Chaque fois que nous, on reçoit une offre d'achat, que ce soit pour l'achat ou la vente d'un terrain, on fait une recherche sur le titre pour 2 raisons. Premièrement, on veut s'assurer que le vendeur est en effet la personne qui est enregistrée sur le titre. Alors, le contrat doit correspondre. La personne sur le contrat qui dit qu'il vend la maison doit être la même personne qui est inscrite sur le titre. Évidemment, on peut imaginer qu'il y a des problèmes, que si le contrat indique que c'est un vendeur différent que la personne qui est sur le titre, qui arrive parfois d'ailleurs, ça cause des problèmes. Alors, il y a ce côté-là. Il faut aussi s'assurer que moi, si j'agis pour un acheteur, moi, je dois m'assurer que, que les enregistrements qui sont sur le titre, c'est des enregistrements qui font du sens, dans le sens que c'est des enregistrements qui sont permis, que mon acheteur, selon le contrat, accepte les enregistrements qui sont là. Alors, les types d'enregistrements que normalement on accepte, qui sont permissibles, c'est des enregistrements, par exemple, comme Manitoba Hydro ou MTS. Eux autres ont un certain droit d'accéder à leurs instruments, leurs équipements, leurs matériels qui se retrouvent sur votre terrain. Alors ça, c'est permissible. Ces enregistrements-là peuvent suivre le titre de propriétaire à propriétaire. Mais l'hypothèque, par exemple, du vendeur, mais ça, ce n'est pas une hypothèque que mon acheteur va accepter, évidemment. Nous autres, on va imposer des obligations sur l'avocat des vendeurs pour leur dire, écoute, je te donne l'argent, mais toi, en retour, tu dois payer l'hypothèque, puis tu dois me retourner une main levée de la banque qui va enlever cet enregistrement-là sur le titre. Puis c'est une obligation que j'impose sur l'avocat de l'acheteur. Puis si l'avocat de l'acheteur n'accepte pas cette obligation, je ne transfère pas le titre. L'avocat du vendeur.
Ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous faisiez une recherche pour le titre juste pour l'année précédente? Comme l'ancien propriétaire, ou est-ce que vous faisiez une recherche encore plus antérieure des autres propriétaires qui sont inscrits sur la maison?
Ce n'est pas nécessaire au Manitoba. Alors, nous, on a un système, le système Torrens, qui est un système différent de ce qu'on retrouve, par exemple, dans l'Est du Canada, dans la partie atlantique du Canada. Ce concept, alors le système Torrens donne une garantie que le propriétaire courant est en effet le propriétaire qui est le seul propriétaire et qui n'a pas d'autres intérêts contre le titre. Dans les autres systèmes, dans le vieux système qui existait avant le système Torrens, il fallait faire une recherche antérieure pour examiner chaque titre, pour s'assurer que le nouveau titre était en effet le titre clair, qu'il n'y avait personne d'autre qui avait. Alors, il y avait une chaîne de propriétaires qu'on devait faire des recherches sur. Il y avait des assurances qu'on pouvait avoir, mais il n'y avait jamais une garantie 100% dans ces systèmes-là que, même avec toute la diligence qu'on faisait, qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait venir à un moment donné, qui pourrait dire, tu sais, il y a 100 ans, mon ancien grand-oncle avait une hypothèque où il était le propriétaire, puis quelqu'un leur a enlevé ce titre. Puis, alors, sous le système Torrens, c'est impossible que ça arrive. La province garantit les titres. Alors, si quelqu'un arrivait avec une réclamation, puis cette réclamation était basée en droit, ça serait la province à ce moment-là qui repayerait cette personne pour les dommages-intérêts qu'elle a subis à cause de la perte. Tandis que dans les provinces atlantiques, il y a toujours cette possibilité d'un intérêt qui pourrait survenir plus tard.
Oui. Quand j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa, c'est ça qu'il fallait faire. Donc, on s'est pratiqué comment faire des recherches sur le titre, puis c'était assez complexe. Puis lorsque je suis arrivée au Manitoba, je me suis dit, oh, wow, c'est bien comment être ça ici. Donc, ça rend vraiment le travail d'un avocat, juste un peu plus facile.
Puis ça donne une. Alors, il y a un concept en droit, ça marche très bien pour le droit parce qu'il y a un concept en droit, comme vous le savez, de finalité. Le droit n'aime pas avoir des réclamations potentielles, n'aime pas que les gens sentent la possibilité qu'ils doivent toujours faire attention au passé. Parce que imaginez-vous la situation qu'un acheteur qui. Alors, revenons à ce concept de caveat emptor que nous avons parlé au début. Imaginons que ce n'était pas le cas. Imaginons qu'un acheteur. Parce que souvent, les gens qui vont dire, bien, c'est pas juste, comment ça se fait que j'ai acheté une maison, puis c'était supposé être ceci, puis là, j'ai toutes sortes de problèmes, puis bon. Puis c'est. En premier, sur la surface, c'est facile de dire, ah, tu sais, tu as raison, peut-être qu'on n'a pas un très bon système. Mais imaginons l'inverse. Imaginons que nous avons un système qui n'a pas de caveat emptor, que le vendeur devient toujours responsable pour la possibilité de problème plus tard. Moi, je vends ma maison. Moi, je n'aime pas le risque. Puis, je vends ma maison pour 300 000 $. Bien, je ne suis pas certain que je suis prêt à acheter une nouvelle maison à ce moment-là. Peut-être que je veux garder le 300 000 à la banque pendant une période de temps pour m'assurer que il n'y a pas de. Personne ne me revient par après. Puis si mon niveau de risque est très bas, bien, ce n'est pas un mois, six mois, c'est peut-être deux ans, trois ans. À quel point que les gens. Il va y avoir une certaine population qui ne dépenseront pas cet argent-là. Alors, qu'est-ce que ça fait à l'économie, ça? Mm-hmm. Les gens sont assis sur leur argent, ils ne veulent pas la dépenser parce qu'ils ont peur que quelqu'un va revenir deux, trois ans, cinq ans plus tard pour dire « Hey, j'ai un problème avec mon sous-sol, puis c'est de ta faute, puis paye-moi. » Si j'ai acheté une nouvelle maison, moi, je suis foutu, je n'ai pas cet argent-là pour repayer. Mm-hmm. Alors, le droit, surtout dans des transactions contractuelles comme l'immobilier, le droit aime la finalité. Et c'est la raison pourquoi que le Torrens, qui est le nom d'une personne en Australie qui a développé ce système-là, je pense que c'était dans les années 1800, a créé ce système parce qu'il n'aimait pas ce concept de manque de finalité. Alors, je pense que c'est toutes les provinces de l'Ouest qui utilisent le système de Torrens. En Ontario, c'est le vieux système, Jana?
Jusqu'à là, oui. Ouais. C'est comme, c'est un peu, il y a quelques nouvelles ici et là, mais il faut quand même faire des recherches, comme des années, comme si tu vois quelque chose qui cloche, tu dois retourner encore 5 ans. C'est tout un travail un peu proche, mais c'est beaucoup mieux ici au Manitoba quand même. Je sais qu'on a parlé beaucoup de la responsabilité d'un avocat, qu'est-ce qu'on fait dans une transaction immobilière, mais est-ce qu'un avocat est essentiel et nécessaire lorsqu'on achète une maison?
Oui. La raison pour laquelle c'est essentiel, c'est parce que les transferts de titres doivent être témoignés par un avocat. Ça fait partie de la loi sur la propriété réelle du Manitoba. Les hypothèques et les transferts de titres doivent être témoignés par un avocat qui est licencié dans la compétence, dans la juridiction. Alors, au Manitoba, ça doit être un avocat du Manitoba. Si le propriétaire ou l'acheteur se retrouve à l'extérieur de la province, il y a une liste de personnes qui peuvent témoigner, mais la majorité du temps, ils doivent trouver un avocat dans cette juridiction pour signer des documents.
Voilà, très heureux des éclaircissements que tu nous donnes dans notre entretien ici. Je suis vraiment très satisfait. Mais là, je vais poser juste une question, mais qui a deux volets. Parce que dans dans le processus de vente, d'achat, ainsi de suite de maison, on parle de l'agent immobilier concrètement. Alors, on veut savoir son rôle dans cette affaire. Et aussi, on veut savoir aussi, est-ce que cet agent immobilier peut représenter les deux parties au contrat, ça veut dire le vendeur et l'acheteur au même moment, ou non, ou ce n'est pas faisable?
Bonne question. Alors, le rôle de l'agent immobilier, c'est de présenter à des acheteurs un inventaire de maisons. Alors, il y a des maisons qui sont à vendre, il y a un système qui est géré par les associations des immobiliers, qui s'appelle le Multiple Listing Service, le service de vente, où ce que Tous les courtiers immobiliers ont accès à ce système. Il y a tous les détails de les maisons qui sont présentement à vendre. Il y a les prix qu'ils demandent, le pied carré, la superficie de la maison, l'adresse, combien de chambres à coucher, combien de salles de bain, etc. Alors, les détails de chaque maison se retrouvent sur un système central. Les agents immobiliers ont accès à ce système. Des acheteurs qui cherchent à trouver une maison vont travailler avec un agent immobilier pour visiter les maisons, voir l'inventaire qui est disponible. Et puis, les agents immobiliers sont régis sur la loi des courtiers immobiliers. Ils sont régis par la loi sur les courtiers immobiliers et ils ont une forme prescrite par la loi, une forme de contrat d'offre d'achat. Qu'ils utilisent. Alors, tous les gens qui ont déjà acheté ou vendu une maison seront familiers avec cette forme. Je pense qu'elle change, elle a changé ou elle change à partir de cette année, mais elle va être semblable. Le rôle de l'agent, c'est de présenter les maisons aux acheteurs. C'est, avec les vendeurs, c'est de mettre leur maison sur le système. Voilà. Et puis de rédiger l'offre d'achat quand quelqu'un veut faire une offre en utilisant la forme prescrite par la loi, la forme d'achat. Et puis, celle-ci est présentée à l'agent immobilier des vendeurs qui va travailler avec le vendeur. Et normalement, le rôle des agents immobiliers à ce moment-là, c'est d'assister les acheteurs et les vendeurs dans la négociation qui se trouve sur les points normalement de prix et date de possession et les objets qui sont inclus ou exclus de la vente. Alors, c'est les points généraux sur lesquels les agents immobiliers tombent. Une fois qu'un contrat est en place, les agents immobiliers, le courtier va envoyer la copie du contrat finalisé à l'avocat de chaque partie, que ce soit l'acheteur ou le vendeur.
OK.
Ça, c'est important parce que la négociation se fait au niveau des agents immobiliers, ne se fait pas au niveau des avocats. Et les gens qui ont déjà négocié un contrat, les avocats, nous, on ne peut pas changer un contrat. Alors, de temps en temps, il va y avoir des gens qui vont dire, bien, je vais aller voir mon avocat, puis j'aime pas un certain aspect du contrat que j'ai fait, je vais demander à mon avocat de le changer. On ne peut pas faire ça. Un contrat, une fois que c'est négocié, le rôle de l'avocat, c'est de prendre le contrat et de s'assurer que l'obligation du client, selon le contrat, est respectée. C'est le rôle de l'avocat dans les transactions. Parfois, par contre, on va avoir des gens qui vont nous approcher, qui vont demander ils ne travaillent pas avec un agent immobilier. Ils ont peut-être trouvé leur propre acheteur ou leur propre vendeur. Et puis, ils viennent nous voir pour rédiger le contrat. Alors, à ce moment-là, on peut assister les gens dans la négociation de l'offre. Mais si l'offre est déjà négociée, ce travail est fini, l'avocat ne peut pas changer les termes d'un contrat.
En tout cas, là, l'équivoque est levé parce que là, tu nous as donné directement la différence entre l'agent immobilier et l'avocat dans cette transaction. En tout cas, c'est clair. Mais prenons le cas que le vendeur qui a déjà accepté l'offre, qui accepte de vendre à l'acheteur X sa maison, mais tout d'un coup, il change d'avis, peut-être parce qu'il a trouvé une bonne offre encore à part. Est-ce qu'il lui est permis de faire ça et s'en sortir calmement, sans être inquiété?
Alors, la courte réponse est non. Une fois qu'on a un contrat sans condition, c'est une obligation contractuelle et puis on doit ou bien procéder avec ou bien on doit être prêt à payer les conséquences. Une fois qu'on signe un contrat, qu'on accepte une entente, qu'on accepte certaines obligations et qu'il ne reste plus de conditions, à ce moment-là, on doit respecter nos obligations, sinon une cour nous retrouverait responsable pour la perte de l'autre partie. Maintenant, j'ai bien dit avec des conditions, une fois que les conditions sont enlevées.
OK.
Si on La majorité des contrats se font avec des conditions. Les conditions qu'on retrouve normalement, c'est conditionnel à obtenir une hypothèque. Ça peut être conditionnel aussi à une inspection de maison. Et on peut aussi indiquer qu'on veut que notre offre soit conditionnelle à l'approbation de notre avocat. Alors, s'il y a une condition comme l'approbation de l'avocat, à ce moment-là, oui, c'est possible de terminer le contrat parce que les avocats, on n'a pas besoin de donner de raison pourquoi on n'approuve pas un contrat. On peut simplement indiquer à l'autre partie qu'on n'approuve pas l'offre et que l'offre devient nulle et sans pouvoir. Alors, si quelqu'un a des inquiétudes et ils veulent absolument qu'un avocat revoie le contrat, ils peuvent ajouter une condition que ce soit approuvé par mon avocat. La majorité du temps, ce n'est pas nécessaire. La grande majorité du temps, les maisons qu'on achète avec les agents immobiliers sont dans la majorité, sont compétents dans le sens qu'ils peuvent assister les gens à se protéger avec des conditions d'inspection et des conditions de financement. Ce n'est pas nécessaire, mais si quelqu'un, à la fin de la journée, a des inquiétudes puis ils ne sont pas nécessairement capables de mettre le doigt exactement sur l'inquiétude qu'ils ont, mais ils ont un sentiment que quelque chose cloche ou ne fait pas tout à fait du sens, ils peuvent ajouter une protection additionnelle en demandant l'approbation de l'avocat.
Je me dis que, quel est le cas qu'après avoir acheté la maison et que dans les quelques jours qui suivent, il y a l'apparition des vices cachés qui n'étaient pas quand même connus avant, mais quel sera le comportement de l'acheteur face à ces cas-là qu'il découvre?
Alors, les vices, c'est un problème. Les vices, alors, la cour d'appel du Manitoba a adressé cette cause dans un appel, ce point dans un appel. Et puis, il y a toute une explication de la cour sur la différence entre un vice caché puis un vice.
Voilà.
Ce genre de termes. Alors, il faut revenir à ce principe de est-ce que le vendeur a fait d'une manière intentionnelle, est-ce que le vendeur a caché un problème qui aurait autrement été détectable ou qu'une personne pourrait le détecter. De plus, il faut que... Alors, il y a cet élément-là d'éléments où ce qu'un vendeur cache quelque chose par exprès ou représente quelque chose, soit pas verbalement, mais qui refait le sous-sol, par exemple, juste avant de vendre parce qu'il veut cacher tous les problèmes avec le sous-sol. Alors, il y a cet élément-là. Puis, il y a aussi l'élément de représentation que la personne fait verbalement. Alors, si dans une situation comme ça, où ce que on va dans un sous-sol, puis ça sent peut-être la moisissure un petit peu, mais on voit qu'on a des murs complètement neufs, un acheteur peut demander au vendeur de faire une représentation qu'il n'y a pas de problème derrière les murs. Parce que si on ne fait pas cette représentation-là, on doit prendre un couteau, puis on doit regarder derrière le mur, puis c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Alors, on peut demander au vendeur de faire une représentation qu'il n'y a aucun problème. Puis, si le vendeur fait cette représentation-là, puis on est capable d'établir que la représentation était fausse et que le vendeur savait qu'elle était fausse, à ce moment-là, on a gain de cause, on peut poursuivre la personne. Mais il faut revenir à ce concept de caveat emptor, que c'est vraiment la loi du début, le point de départ, c'est la responsabilité de l'acheteur. Alors, on prend toujours un risque quand on ne fait pas les... c'est important d'écouter la petite voix qu'on a dans la tête. Tu sais, quand on sait que quelque chose cloche un petit peu, puis il y a quelque chose qui ne semble pas être tout à fait correct, normalement, c'est un avertissement, notre intelligence caché qui se manifeste, qui dit « Hey, il y a peut-être un petit problème. » Alors, à ce moment-là, il y a des démarches qu'on peut faire. Mais une fois qu'on prend possession puis qu'on retrouve des vis, à ce moment-là, ce serait important de consulter avec un avocat. Il faut comprendre que maintenant, on parle de litige. C'est toujours dispendieux faire du litige. C'est toujours dispendieux faire affaire avec des avocats. Alors, si c'est un problème qui va vous coûter 1 000, 2 000 $ à régler, bien, dépensez le 1 000, 2 000 $ à régler le problème puis passez à autre chose. Si c'est un problème qui va vous coûter 50 000 $, bien, à ce moment-là, c'est peut-être, ce serait avisable de parler à un avocat pour revoir exactement, parce que c'est pas évident. C'est compliqué, cette question de vis caché, puis quelles sont les représentations, etc. Il y a beaucoup de nuances là-dedans, puis les faits sont très importants à ce moment-là.
Je vous remercie, Maître Philippe Richer, de l'étude d'avocat TLR Law Office, pour ce véritable même cours en droit immobilier. On a vu plusieurs responsabilités au niveau de les acheteurs, vendeurs, les agents immobiliers eux-mêmes, les avocats, qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Je pense que c'est quand même intéressant à comprendre que les avocats ne sont pas là pour normalement négocier la vente, l'achat. Ça, c'est normalement les agents immobiliers. Mais la vérification du titre foncier, c'est de quoi il s'agit. On a vu que la description légale, ce n'est pas du tout quelque chose comme 24 High Castle. C'est plutôt des coordonnées un peu abstraites pour des personnes comme nous qui ne sont pas arpenteurs. Et puis de l'importance de vérifier ces affaires-là, parce que c'est ça au juste qui symbolise ou qui est, comme Maître l'a dit, l'étiquette qui représente notre propriété, notre terrain. Alors, je pense que ça serait intéressant de continuer dans ce même thème, parce qu'on voit qu'on brosse seulement la surface, mais je pense qu'il y a quand même des concepts vraiment utiles qu'on a fait ressortir là pour nos auditeurs. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, sachez que vous pouvez en savoir plus sur le site web de TLR, l'étude d'avocat TLR, tlrlaw.ca. Il y a des articles sur le droit immobilier, des posts de blog même. On voit une équipe active. Vous pouvez aussi consulter, bien certain, le Centre InfoJustice Manitoba. On a un site web infojustice.ca. Vous pouvez aussi retrouver des informations sur le droit immobilier ainsi que notre annuaire d'avocats, là où bien certain que Maître Philippe Richer figure. Et puis, vous êtes toujours la bienvenue pour poser des questions là-dessus, chercher des informations juridiques sur la vente, l'achat de la maison ou peu importe quel domaine du droit. Vous voyez qu'on est bien appuyé par notre association de juristes. Par exemple, Maître Philippe aujourd'hui. Alors, voilà, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, infojustice.ca ou bien encore le 204-815-5274 si vous voulez nous consulter par téléphone. C'était un grand plaisir. Merci à mes collègues Jana et Cathy aujourd'hui et un grand merci à Maître Philippe Richer de l'étude d'avocat TLR Law Office. Ça a été vraiment agréable. Merci et puis on a beaucoup appris. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup.
Merci à vous.